Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, 121 ressortissants congolais résidant en Afrique du Sud, dont des femmes et des enfants, sont rentrés au pays de leurs ancêtres, la RDC. C'est le premier vol de rapatriement volontaire affrété par le gouvernement congolais depuis l'Afrique du Sud. Les détails dans un instant. Nous parlerons aussi dans ce journal de la descente surprise du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vendredi, sur différents sites situés le long du boulevard Lumumba, là où les bâtisseurs de la nation du service national exécutent des travaux d'assainissement de Kinshasa. L'invité de ce journal est Maître Soudi Alimasi Kimputu, juriste et spécialiste des questions de gouvernance locale. Avec lui, nous parlerons du fonctionnement des entités territoriales décentralisées, leur rôle dans le développement local, ainsi que des défis auxquels elles sont confrontées. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue à ce journal parlé dominical sur la radio de la paix. Ils sont enfin de retour au bercail. Ce sont 121 ressortissants congolais résidant en Afrique du Sud, dont des femmes et des enfants rentrés en RDC. En tout cas, c'est le premier vol de rapatriement volontaire affrété par le gouvernement congolais depuis l'Afrique du Sud. Pour rappel, cette opération fait suite aux violences à caractère xénophobe survenues les 5 et les 6 mai 2026 qui ont affecté plusieurs communautés étrangères, dont la communauté congolaise, explique le communiqué des affaires étrangères de la RDC. Mais comment en est-on arrivé à cette opération? Réponse avec Lievin Mbwingavubu.
Le 8 mai dernier, la ministre des Affaires étrangères a présenté à l'Assemblée nationale les mesures engagées par le gouvernement pour protéger et assister les compatriotes basés en Afrique du Sud. Thérèse Kayikwamba Wagner a ensuite porté la question devant le Conseil des ministres au regard de la dégradation de la situation. À la suite de cette communication, Madame la Première ministre a décidé de mettre en place une cellule de crise gouvernementale et de dépêcher une mission en Afrique du Sud afin de coordonner l'identification des ressortissants concernés et d'organiser leur patrimoine volontaire dans les meilleures conditions de sécurité, de dignité et de solidarité nationale. Selon le communiqué, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria a immédiatement renforcé son dispositif consulaire en activant une veille permanente des lignes d'urgence, des relais communautaires et des démarches diplomatiques auprès des autorités sud-africaines afin d'assurer la protection et l'assistance des ressortissants congolais jusqu'à leur retour au pays. Le document note également qu'à ce jour, 260 dossiers ont été validés dans le cadre de cette opération. Après vérification individuelle par les services compétents, 121 compatriotes ont été autorisés à embarquer à bord de ce premier vol à destination de Kinshasa.
L'actualité, c'est aussi cette descente surprise du chef de l'État vendredi sur différents sites situés le long du boulevard Lumumba dans le district de la Tchangu, là où les bâtisseurs de la nation du service national exécutent des travaux d'assainissement de Kinshasa. Amassina Pascal a des bonhommes, comme à l'arrêt quartier Ndjili, où il est passé, par exemple, Félix-Antoine Tshisekedi a salué les travaux réalisés par ses ex-Kuluna quelques jours seulement après leur déploiement. D'autres détails avec vous, Benjamin Mudumbi.
Dans son adresse au bâtisseur du service national, le président de la République a affirmé qu'il venait palper du doigt leur action sur terrain. Je tiens à vous exprimer toute ma satisfaction et ma profonde reconnaissance pour le travail remarquable que vous accomplissez. Les résultats obtenus en si peu de temps témoignent de votre engagement, de votre sens du devoir et de votre amour pour la nation, leur a-t-il déclaré. Le chef de l'État a promis aux bâtisseurs l'amélioration de leur salaire ainsi que de leurs conditions de vie. Il leur a recommandé de continuer à travailler avec assiduité en respectant les instructions de leur commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, afin de revêtir la ville de Kinshasa de sa plus belle robe d'antan, celle de Kin la Belle.
L'électrification du Kasaï central bientôt une réalité avec la chute Mbombo. Nous en voulons pour preuve la signature du contrat entre les fonds de promotion de l'industrie et l'Agence nationale d'électrification en milieu rural et périurbain en serre vendredi à Kinshasa. et ce projet donne naissance à la société Hydrombombo SAS pour la gestion de la centrale hydroélectrique avec une production de 20 MW. D'autres détails avec Gloriane Lepeya.
Implantée sur la rivière Lulua, à 15 km de Kananga, l'infrastructure est pilotée par l'ANSER et portée par la volonté du président de la République d'électrifier les différentes provinces pour favoriser les investissements et les développements du pays. D'après le directeur général du FPI, Hervé-Claude Batukonke, Mbombo est un projet à vocation industrielle et sociale pour une production de 20 MW. L'ouvrage comprendra les barrages, une base vie, de voies d'accès et tous les réseaux d'évacuation de l'énergie vers Kananga, dont les lignes de transport, les postes et les stations de distribution. Avec ces barrages, Kananga et sa périphérie sortiront d'un taux d'électrification inférieur à 1%. Sur le terrain, les études de faisabilité financées par l'ANSER sont presque terminées. Le 23 janvier 2025, le gouverneur du Kasaï central a remis le droit des terres au chef coutumier du village Tibambula pour engager les terrassements sans heurter les divinités ancestrales. La population, appelée à s'impliquer dans la réalisation du chantier, garde les yeux rivés sur ces projets.
Justice à présent, les services de sécurité toujours à la recherche de 70 détenus évadés depuis vendredi de la prison centrale de Ouatcha. Selon des sources locales, plusieurs d'entre eux sont condamnés pour des faits graves et leur présence présumée dans la communauté de cette partie de la province du Haut-Ouélé suscite inquiétude et interrogation dans la région déjà confrontée à l'insécurité liée aux activités des groupes armés, notamment les ADF. Face à cette angoisse, les acteurs de la société civile appellent la population à faire preuve de vigilance et demandent aux autorités de renforcer les dispositifs de sécurité. Isaac Remoyope pour plus de précisions.
C'est aux environs de 16h vendredi que 70 détenus se sont évadés de la prison centrale de Ouatcha dans la province du Haut-Ouélé. Selon la société civile locale, les évadés auraient profité de l'ouverture des portails aux visiteurs pour maîtriser un agent pénitentiaire avant de prendre la fuite. Parmi eux figurerait une quinzaine de détenus condamnés pour détention ou utilisation illégale d'armes. Selon les mêmes sources, cette évasion alimente les inquiétudes des habitants de Ouatcha, une région déjà confrontée à des actes de banditisme attribués à des hommes armés non identifiés. Le territoire fait également face à une insécurité persistante liée à la présence signalée des combattants présumés des ADF dans les environs de Mumbere. Cette situation a déjà provoqué le déplacement des milliers de personnes. Face à ces contextes, les acteurs de la société civile demandent aux autorités de renforcer les mesures de sécurité afin de protéger les populations et de retrouver les détenus en fuite. Ils invitent également les habitants à signaler sans délai au service de sécurité toute personne ou tout comportement suspect pouvant contribuer à l'arrestation des évadés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Puisque nous parlons prison, notez que la journée internationale Nelson Mandela a été célébrée hier samedi 18 juillet et la prison centrale de Bounia n'était pas en reste. Entre joie et espoir, les détenus de cet établissement pénitentiaire ont aussi commémoré cette journée hier samedi dans le chef-lieu de l'Ituri. Au menu, une journée porte ouverte organisée par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Objectif, promouvoir les valeurs défendues par cet ambassadeur de la paix que fut l'ancien président sud-africain, notamment le respect de la dignité humaine. Par ailleurs, les pensionnaires ont bénéficié de consultations médicales gratuites ainsi que des kits hygiéniques pour les femmes détenues. Reportage Martial Kizabiamongo.
C'est autour d'un repas de fraternité que plus d'une centaine de détenus de la prison centrale de Bounia ont célébré la journée internationale Nelson Mandela. Selon l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, cette journée spéciale a pour objectif de promouvoir la dignité et le bien-être des pensionnaires de cette maison carcérale. L'activité a ainsi permis de rappeler les valeurs défendues par Nelson Mandela, notamment les respect de la dignité humaine, les droits fondamentaux, la justice et la réinsertion sociale des personnes privées de liberté. Pour les directeurs de la prison centrale de Bounia, ces gestes donnent de l'espoir à ces milliers d'hommes et femmes privés de liberté. Le colonel Kabyle Nzozi.
Ce qui est bénéfique pour les détenus, c'est les signes d'espoir. Parmi eux, il y aura aussi des responsables quand ils vont quitter la détention pour les réinsertions.
Au cours de cette activité, les détenus ont aussi été sensibilisés aux mesures barrières contre Ebola et l'importance de la préparation à leur retour dans la communauté afin de valoriser leurs compétences et initiatives au profit de la communauté. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Revenons à la partie ouest du pays pour parler de ces rebondissements du dossier Assemblée provinciale dans le Congo central. Cette affaire a refait surface avec le rejet de la requête en rectification d'erreurs matérielles introduite par Victor Nswami. La Cour constitutionnelle a en effet rejeté la demande de l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui contestait l'arrêt rendu public le 7 mai dernier. Dans cet arrêt, la Cour avait réhabilité Papi Mantezolo Diantezoa à la présidence de l'Assemblée provinciale du Congo central et annulé les actes ayant conduit à sa destitution, estimant que ses droits de la défense n'avaient pas été respectés. Pour vous permettre de comprendre cette affaire à rebondissement, suivez ce reportage d'Élise Kavira.
Cette décision met fin au recours introduit par Victor Ntuam Mpaka devant la Cour constitutionnelle et confirme le retour de Papi Mantezolo à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central. Pour rappel, le 7 mai dernier, la Cour constitutionnelle avait annulé les actes ayant conduit à la destitution de Papi Mantezolo. Cette décision faisait suite à une crise au sein de l'Assemblée provinciale, marquée par des tensions entre son bureau et une partie des députés provinciaux. Ces derniers accusaient Papi Mantezolo de plusieurs irrégularités dans la gestion de l'institution, des accusations qui avaient conduit à sa destitution. Saisie une nouvelle fois dans ces dossiers, la Cour s'est déclarée incompétente pour examiner la demande. Elle a ainsi confirmé son précédent arrêt, rétablissant définitivement Papi Mantezolo Diatezoa comme président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Suite de l'acceptation du dialogue inclusif par les chefs de l'État vendredi à Kinshasa, la Conférence nationale épiscopale du Congo a poursuivi hier samedi ses consultations autour du projet de ce dialogue national inclusif avec les responsables de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel de l'opposition. Presque rien n'a filtré de cette rencontre, mais selon certaines sources, les échanges ont consisté pour les cardinal Fridolin Ambongo a informé les leaders de l'opposition du contenu des échanges tenus la veille avec les chefs de l'État au sujet de cette initiative politique. Dossier à suivre évidemment. Éducation, pas de rentrée scolaire sans paiement des arriérés. Au Nord Kivu, les inspecteurs de l'enseignement de la région de Beni, Butembo et Lubero ont tranché. Ils menacent de boycotter l'année scolaire 2026-2027. Réunis vendredi en Assemblée générale à Butembo, ils dénoncent le non-paiement de leurs primes pour fonction spéciale ainsi que d'autres créances et donnent au gouvernement jusqu'à la fin des vacances pour régulariser la situation. Samuel Kakule-Kombi, secrétaire provincial du syndicat national des inspecteurs du Congo, Signeco, de la région, explique au micro de Martial Papimukeba.
C'est depuis longtemps que l'inspecteur ne bénéficie pas de sa prime pour fonction spéciale. Les inspecteurs ont présenté des revendications, notamment des évaluations certificatives pour l'année passée, une affaire peut-être un suspect, examen d'état. Les inspecteurs ont déjà travaillé, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien reçu du gouvernement. La prime pour fonction spéciale qui est jusqu'à aujourd'hui discriminatoire. Une petite minorité reçoit ça. Et les personnes ignorent les conditions dans lesquelles nous travaillons ici au Nord-Kivu. Avec la guerre, il y a aussi la situation des frais de fonctionnement dans les poules primaires. Sur le listing, il est reconnu 600 000 francs depuis 2023 et jusqu'à aujourd'hui. Il reçoit 175 000 francs. Où vont les restes? Qui les détourne? Au regard de toutes ces revendications, les inspecteurs en unanimité se sont désengagés à accompagner la rentrée scolaire 2026-2027 si et seulement si le gouvernement ne parvenait pas à payer rapidement avant de terminer les vacances.
Pour l'instant, nous n'avons pas encore obtenu de réaction de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, deux soldats américains sont morts dans des frappes iraniennes en Jordanie, a annoncé Washington samedi 18 juillet. Ce sont les premiers depuis la reprise des hostilités au début du mois. Un autre soldat est porté disparu. C'est un nouveau tournant dans les conflits entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran, qui a également visé des infrastructures civiles au Koweït, notamment une usine de dessalement d'eau, affirme ne plus être liée par le protocole d'accord du 17 juin. L'escalade se poursuit et éloigne le maigre espoir d'un apaisement.
L'invité.
L'invité de ce journal est Maître Soudi Alimasi Kimputu. Il est juriste et spécialiste des questions de gouvernance locale. Avec lui, nous allons parler du fonctionnement des entités territoriales décentralisées, de leur rôle dans le développement local, ainsi que des défis auxquels elles sont confrontées. Maître Soudi Alimasi Kimputu s'entretient avec Élise Kavira.
Monsieur Soudi Alimasi Kimputu, bonjour.
Bonjour, Madame la journaliste.
Comment définissez-vous la décentralisation et comment s'applique-t-elle?
Je ne voudrais pas entrer dans des définitions académiques ou doctrinales, mais je préfère utiliser les définitions simples, une petite définition simple, pour que nous puissions nous faire comprendre par tout le monde. Et la décentralisation, c'est le fait pour le pouvoir central de transférer une partie de ses compétences aux autres entités ou aux entités inférieures au niveau du fonctionnement d'un État. Alors, de manière générale, la province joue le rôle de supervision et de coordination de l'action de l'État au niveau de sa circonscription. Et le territoire, qui est une entité déconcentrée, a pour rôle principal de mener des inspections au niveau des entités territoriales décentralisées, donc au niveau du secteur, mais aussi le territoire a un grand rôle d'appui-conseil au niveau des entités territoriales décentralisées. Mais s'agissant du secteur qui est le même niveau que la chefferie, c'est une entité territoriale décentralisée qui a une autonomie administrative, une autonomie financière, qui a ses ressources propres et qui peut bénéficier des ressources issues des recettes à caractère national qui sont produites aussi au niveau de son entité, donc au niveau du secteur. Les secteurs à l'instar des autres entités territoriales décentralisées, c'est le niveau de base qui est le pilier du développement de notre pays. Si toutes les choses s'appliquaient normalement, si au niveau du secteur de la chefferie de la commune que l'on devait asseoir notre développement. Parce que c'est l'instance qui est en contact direct avec la population, c'est l'instance qui est censée gérer les besoins sociaux de base de la population.
Puisque nous nous intéressons particulièrement au secteur, quelles sont les missions des secteurs et des chefferies dans la gestion locale et le développement?
Les secteurs et les chefferies ont des missions énormes. Tout ce qui est question de l'amélioration de l'habitat, la sauvegarde du patrimoine, l'entretien des réseaux routiers, la gestion des domaines, la protection de la faune flore rentrent toujours dans leurs attributions. Et je vais ajouter en disant que le chef de secteur ou le chef de chefferie est effectivement officier d'état civil. Ça veut dire que il peut célébrer un mariage parce que la loi lui reconnaît possibilité. Et les secteurs de la chefferie sont des entités décentralisées. Ça veut dire ils ont l'autonomie administrative, ils ont l'autonomie financière, ils ont la libre administration, ils ont la personnalité juridique, ils peuvent rester en justice contre la province et même contre le pouvoir central. En cas de divergences sur certaines questions qui relèvent de la loi et de la Constitution.
Et dans tout ça, quel est le rôle de la Direction provinciale des recettes?
La Direction provinciale des recettes, elle ne peut percevoir que les recettes qui relèvent de la compétence de la province. Chaque entité territoriale décentralisée a ses finances et les responsables en répondent devant les institutions compétentes chargé de contrôle et de suivi. Donc si aujourd'hui, une régie provinciale va collecter au niveau des secteurs et des chefferies les recettes qui relèvent des attributions des secteurs et des chefferies, c'est un détournement des deniers publics.
Après plus de 15 ans de décentralisation en RDC, pensez-vous que les objectifs sont atteints?
À ce jour, je peux dire que les objectifs de la décentralisation ne sont pas atteints. Vous savez, dans tout processus de décentralisation, il y a toujours cette tendance de rétention des compétences transférées. Malheureusement, nous en sommes arrivés là. Le pouvoir central refuse de finaliser les transferts de compétences et de ressources, à la fois financières, humaines et matérielles. Ça n'a pas été fait.
Les provinces aller-retour qui devaient faire la même chose au niveau des entités territoriales décentralisées refusent de le faire. La tendance aujourd'hui est de rentrer dans la centralisation totale et je pense que pourront à un moment donné s'y ressaisir afin que nous puissions revenir sur le processus de décentralisation qui est en train de mourir à petits pas.
Monsieur Soudi Alimasi Kimputu, merci d'avoir répondu à nos questions.
Vous avez compris, il s'agissait bien de notre invité Maître Soudi Alimasi Kimputu qui s'entretenait avec Élise Kavira. Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin, coordonné par Jean-Désiré Kanyama, supervisé par Lievin Mbuinga Vubu et mis en onde par Jean-Claude Nsala Mwanamakengonsoalou. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radioocapi.net.